Sarai se pasa.
Le 3 janvier dernier, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a accordé l'asile politique à Ferzan Tastand, kurde sans papier, après lui avoir refusé ce même statut à plusieurs reprises. Pourtant, père de 5 enfants, Ferzan Tastand avait fui les violences du gouvernement turc à son encontre, un pays, la Turquie, où il a été emprisonné pendant 19 mois pour activisme séparatiste et où il a subi brimades et tortures. Et c'est pour la famille Tastan, la tranquillité semble être enfin au rendez-vous. La peur continue à terroriser de nombreuses autres familles désespérées qui n'aspirent pourtant qu'à vivre en paix en France. Le réseau Éducation sans frontières continue donc ses actions et mobilisations et organise le samedi 19 janvier prochain une série de manifestations en France pour demander, avec d'autres associations comme la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme, la fermeture des centres de rétention, une manifestation qui est également européenne. Sur la grenouille, quelques mots de militants du réseau Éducation sans frontières autour de l'asile politique accordé à Ferzan Tastan, autour des révoltes dans les centres de rétention ces dernières semaines et également autour de l'appel à la fermeture des centres de rétention lancé pour le 19 janvier prochain. Florimond Guimard réagit pour commencer à l'octroi par l'OFPRA du statut de réfugié politique à M. Ferzan Tastan.
Je vois surtout que l'administration française était prête à renvoyer un monsieur dans son pays où il allait de fait subir des violences, puisque même l'OFPRA qui accorde assez peu de titres de séjour de réfugiés politiques en a accordé un à ce monsieur parce que saisi en urgence la commission de recours. Voilà, ça fait froid dans le dos, ça veut dire que l'administration en a rien à faire, même quand elle est interpellée sur des cas aussi emblématiques que la famille Tastan, un monsieur qui avait déjà fait de la prison en Turquie, qui avait déjà été condamné à plusieurs années de prison, et heureusement, mais c'est vrai que... Franchement, c'est vraiment dégueulasse quoi, d'avoir mené cette procédure jusqu'au bout. Alors, Monsieur Tastan est toujours en prison. Il en sortira en février, mais heureusement, il ne sera pas expulsé tout de suite et il pourra sortir libre. Mais franchement, on a évité le pire, enfin, surtout pour lui. Mais c'est vraiment inacceptable, inexcusable pour la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Marie-Claude, militante du réseau Éducation sans frontières à Marseille, a été en première ligne dans la lutte pour protéger la famille Tastan et obtenir le statut de réfugié politique. Elle nous dit quelques mots du revirement de l'OFPRA concernant M. Ferzan Tastan.
On a demandé, compte tenu des nouveaux éléments qu'il y avait, c'est-à-dire l'émission de télévision des actualités en Turquie le jour même de l'expulsion et des 4 articles en ligne de 4 articles de journaux turcs, compte tenu de ces éléments nouveaux, on a demandé un recours gracieux auprès de l'OFPRA. Et on a réexaminé avec des personnes assez spécialisées sur la question turque le dossier de M. Tastan, qui en fait comportait beaucoup d'erreurs de traduction. Donc on s'est rendu compte que la plupart du temps, c'est ce qui l'avait gêné jusqu'à maintenant pour ne pas avoir ce statut de réfugié. Donc on a fait une contre-traduction avec un traducteur expert, bien sûr, hein, assermenté. Et on a réussi à... Enfin, il était donc extrait de la prison le 26 décembre. Il est resté 3 heures à l'OFPRA, à bien réexpliquer toute la situation qu'il a vécue en Turquie, en prison, etc. Et compte tenu à la fois des nouveaux éléments et de cette nouvelle traduction... de tous les documents turcs qu'il avait, l'OFPRA a enfin considéré sa situation et lui a accordé le statut de réfugié politique.
Et en fait, l'OFPRA, jusqu'à maintenant, considérait que les documents qui étaient présentés pour expliquer que la situation de M. Tastan en Turquie était dangereuse pour lui, étaient considérés comme quoi ? Comme des faux ?
C'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait que ce n'était pas des documents probants, justement, parce qu'il y avait des petites erreurs au niveau de la traduction. Hein. Mmh. Donc il pensait certainement, sans le dire, que c'était des faux. Mmh. Hein.
Donc Monsieur Tastan obtient ce statut, mais malgré tout, il reste en prison et le jugement du tribunal de Lyon pour refus d'embarquement reste valide.
Il reste valide pour l'instant, mais on va demander un relèvement de l'interdiction de séjour. Voilà. Donc la peine de prison ne va pas se faire de 3 mois parce qu'il va avoir des remises de peine. On pense qu'il devrait sortir entre le 18 et 20 février par là.
J'imagine que la famille doit être...
Tout à fait. C'est un grand soulagement. Et je pense que la famille, pareil, maintenant, va pouvoir enfin se protéger aussi, se régulariser. Hein, puisqu'ils font pas, enfin, en tant que soit fils, fille ou épouse d'un réfugié, ils pourront avoir des papiers par la suite.
Donc Sedat, qui va passer en procès à Bobigny bientôt, risque de bénéficier lui aussi du fait de ce statut de réfugié politique
voilà,
de son père.
Voilà, on est en train d'y réfléchir là justement cette semaine et on va prendre une décision pour faire la même démarche pour lui. Voilà.
Ça fait combien de temps que tu travailles autour de ce dossier
ouais. Depuis un an que je les connais, depuis la première arrestation de M. Tastan. Au mois de janvier l'année dernière, donc ça fait un an que je suis cette famille. Voilà.
Quels ont été les moments marquants pour toi dans cette année ?
Toute l'année, ça a été très 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 marquant. Ces dates, particulièrement l'année dernière, le papa qui a voulu s'immoler au moment de la troisième tentative d'expulsion de ces dates, la détermination incroyable qu'ils ont pu avoir, qu'ils se sont battus jusqu'au bout tout le temps. Et je suis vraiment contente pour eux qu'ils aient enfin réussi à se faire entendre et avoir une justice pour eux. Je suis vraiment contente de ça.
Fanny, également militante du réseau Éducation sans frontières à Marseille, revient sur les révoltes qui ont lieu dans plusieurs centres de rétention français ces dernières semaines.
C'est plusieurs sans-papiers en fait, qui ont fait des grèves de la faim dans les centres de rétention de Vincennes et de Ménilmontant dans la banlieue parisienne. C'est des centres de rétention en fait, qui sont nouveaux, qui ont été créés il y a peu de temps, enfin il y a peut-être 2 ans, et qui peuvent retenir pas mal de personnes, environ 150 personnes chacun. Et du coup, ça a créé d'énormes tensions parce que, et en plus, c'était à la fin de l'année, à la période des fêtes, et puis il y a pas mal de gens qui ont été arrêtés, et du coup, ça a créé une tension, les gens se sont mis en grève de la faim. Et du coup, il y a aussi eu plusieurs manifestations de sans-papiers, de collectifs de sans-papiers, qui sont venus manifester devant les CRA, devant les centres de rétention, pour manifester leur solidarité. Donc, c'est pour ça que ça a fait un mouvement.
Quels ont été les effets des différentes révoltes dans les centres de rétention administrative ?
C'est toujours un peu difficile parce qu'ils sont très isolés. Donc déjà de leur part, c'est vraiment très très courageux d'intervenir dans les centres parce qu'il n'y a aucun soutien. Donc ils se mettent en grève de la faim. Je crois que c'est à Vincennes, il y a eu 150 CRS qui sont rentrés dans le centre. Et il y a eu des coups, les policiers ont refusé d'appeler les secours. Donc ils n'ont même pas pu aller soigner à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est vraiment une situation très très dure. On est dans un contexte là avec la politique de Sarkozy où c'est très dur pour les sans-papiers de manifester dans la rue parce qu'il y a des contrôles de partout, il y a des rafles de partout quotidiennes et encore plus dans les centres de rétention. Donc c'est vraiment qu'on arrive à un stade qui est vraiment inacceptable quoi, pour tout le monde. Et en plus là, dans les prochains mois, là, il va se discuter au niveau européen en fait. Il y a une directive qui va peut-être se mettre en place d'augmenter la durée de rétention à 18 mois. Elle était de 15 jours, elle a été augmentée par Sarkozy, doublée, maintenant c'est 32 jours. Et là, le projet européen, en fait, ça serait de faire durer la rétention 18 mois.
Pour quelle raison ?
Eh bien parce qu'ils veulent garder les gens un maximum pour trouver à les expulser. Parce qu'en fait, faire une expulsion, c'est pas toujours simple, il faut les laisser passer, il faut trouver pour la police doit trouver les billets d'avion, tout ça. Et des fois, ils ne parviennent pas à rassembler tous ces éléments et expulser les gens. Donc les gens sont relâchés. Donc là, de garder les gens 18 mois, ça leur permettrait d'être beaucoup plus efficaces sur les expulsions. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'ils vont construire des camps, qu'on va vraiment pouvoir appeler des camps de concentration. Parce que là, concentrer les gens dans un camp pendant 18 mois, je vois pas comment on pourrait appeler ça autrement.
Le 19 janvier prochain va donc être une journée de mobilisation pour demander la fermeture des centres de rétention. Jean-Pierre est militant à la CIMAD. Il nous dit quelques mots de cet appel.
C'est une journée nationale pour mettre l'accent sur l'inhumanité des centres de rétention, en sachant que les centres sont un outil d'une politique de rétention qui est elle-même au service d'une politique plus large d'instrumentalisation des étrangers en situation irrégulière au bénéfice de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, les sans-papiers ont une fonction économique dans notre système. Ils servent à tirer les coûts vers le bas. Ils sont les travailleurs les plus flexibles qui soient à l'heure actuelle. Et on en a besoin dans de nombreux secteurs de l'économie. Et en fait, la répression à leur encontre a essentiellement cela pour objectif. Le but, c'est pas d'en renvoyer le plus possible. Ça, c'est ce qui est annoncé. Mais en fait, si on estime qu'il y a 300 000 à 400 000 personnes en situation irrégulière en France, 25 000, en renvoyer 25 000, ça sert à entretenir la machine, en fait. Hein, et donc, à faire régner la peur pour qu'ils acceptent n'importe quoi.
Et donc, pour vous, ce combat contre cette logique-là passe par la demande de fermer les centres de rétention administratifs en France ?
Oui, c'est ça. C'est un outil inhumain parce que on a une politique qui est inefficace quand on regarde les coûts. Hein, donc on se dit que l'efficacité, elle est ailleurs. Les personnes, maintenant, on peut les enfermer 32 jours, alors qu'on sait qu'au bout de 5 jours, ça ne sert plus à rien, quoi, puisque donc la rétention, elle a pour fonction de retenir des étrangers qu'on va reconduire dans leur pays, et donc on les enferme le temps de régler les questions administratives. Bon, en 5 jours, c'est réglé, sinon, après, ça ne sert plus à rien. Et maintenant on se met à enfermer des enfants puisque donc les familles peuvent être enfermées. Là on est dans des violations flagrantes des droits humains et notamment la convention, c'est le droit de l'enfant. Enfin,
combien il y a de centres de rétention en France ?
Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Il y en a une trentaine de gros centres. Après il y a aussi des locaux de rétention. Ça, ce sont les centres de rétention administrative, hein, mais il y a aussi, alors les plus gros se trouvent à Paris, Lyon et ensuite Marseille, mais alors c'est Paris qui est le gros morceau, puis après Lyon. Il y a aussi des locaux de rétention, ceux-là qui sont beaucoup plus volatiles, hein, puisqu'on peut décréter un local pour quelques jours, où ça a une fonction plus longue éventuellement, le préfet prend cette décision, là on a moins la maîtrise des choses.
Quand ces centres de rétention ont été créés et pour quelles raisons ?
Alors, ils existaient depuis longtemps, mais ils étaient clandestins. Il faut penser à Arinck. Ils ont été créés officiellement par la gauche en 1984 pour mettre fin aux pratiques clandestines et pour qu'il y ait possibilité de vérifier, de contrôler ce qui s'y passe. Et à cette époque-là, en 1984, la gauche a demandé à la CIMAD, comme association, d'y être pour jouer ce rôle de vigilance. Maintenant, il faut savoir que on joue un rôle d'accompagnement, de vigilance, oui, c'est sûr, en sachant que la marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. Nous n'arrivons pas à empêcher beaucoup de départs, hélas.
Les conditions de rétention dans ces centres se sont améliorées ?
Matériellement, oui, parce qu'il y a eu de nombreuses condamnations, notamment au niveau européen. Les conditions matérielles sont meilleures. Pour autant, ça ne change pas. Le désespoir, il vient d'abord de cette perspective d'être renvoyé vers un grand vide, hein, parce que certains sont partis en laissant tout. Certains, c'est la répression qui peut les attendre. C'est bon, et d'autres choses encore. C'est ça le grand problème de fond, c'est la politique de rétention et de renvoi, de traitement inhumain des étrangers qui est à bannir.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme politique d'immigration ?
Oh, là, je vais pas le dire en deux mots. Disons que pour faire vite, mais ça demanderait des explications. Moi, je suis pour l'ouverture des frontières, pas la disparition des frontières. Les frontières, ce sont des identités, ce sont des protections éventuellement. Mais par contre, nous les avons ouvertes en Europe. Il n'y a pas eu d'invasion. Au contraire, ça s'est traduit parce que c'était accompagné par un rééquilibrage vers plus d'équité économique, même si on pourrait faire beaucoup mieux. Ce genre de scénario, nous le préconisons pour progressivement au niveau de l'ensemble de la planète.
Donc, en attendant, c'est une journée qui concerne les centres de rétention français. RESF, la CIMAD et d'autres organisations participent à cette journée de manifestation. Mais c'est aussi une journée européenne ?
Bien sûr, parce que les dispositions et la politique en la matière est européenne. Hein, toutes les directives sont prises maintenant au niveau européen. La dernière, la directive retour, c'est une directive européenne. Hein, on l'appelait la directive de la honte parce que voilà, c'est pas uniquement un dispositif français. Quand on regarde d'ailleurs la carte des camps pour étrangers, et c'est un terme officiel, on voit que l'Europe est truffée de points rouges, mais aussi à toute la périphérie de l'Europe, on installe des camps pour les retenir avant même qu'ils rentrent en Europe. Ce qui veut dire que si on arrivait un jour à fermer les centres de rétention en France, on serait très loin du résultat. C'est bien pour ça que je réinsiste en disant que c'est la politique à l'égard des étrangers, leur instrumentalisation notamment économique, mais aussi politique, parce qu'ils justifient la bascule douce mais certaine vers une forme d'État policier et vers une forme d'État totalitaire, et je crois que tous les Français devraient s'en préoccuper un peu plus.
Pour terminer, deux mots de Florimond Guimard, militant du réseau Éducation sans frontières, sur cette mobilisation du 19 janvier.
Une campagne européenne et en France menée par le réseau Éducation sans frontières aura lieu durant le mois de janvier, où elle culminera le samedi 19 janvier avec des rassemblements un peu partout en France devant les centres de rétention pour dénoncer ces prisons pour étrangers, des étrangers qui n'ont rien fait d'autre, aucun délit que de ne pas avoir de papier, et des gens qui sont là souvent depuis des années.
C'est une manifestation qui demande la fermeture des centres de rétention administratifs ?
Qui demande en tout cas l'arrêt de l'emprisonnement des personnes qui n'ont rien fait et qui ont juste le tort d'avoir voulu avoir une vie peut-être meilleure en France que dans leur pays d'origine. Après, la fermeture des centres de rétention est une réelle question. Moi, individuellement, je suis plutôt pour, mais on a connu en particulier ici à Marseille un centre de rétention clandestin, non officiel, celui d'Arinque pendant des années, et c'est pas non plus ça qu'on veut voir mis en place si un jour on décidait la fermeture des centres de rétention. Donc c'est une question vraiment compliquée qu'il faut prendre à bel corps politiquement, et il serait temps qu'à gauche en particulier on se positionne très clairement contre la rétention des étrangers sans papier.
Journée nationale d'action le samedi 19 janvier 2008, donc pour demander la fermeture des centres de rétention à Marseille. Le rassemblement est à 11h devant la bibliothèque de l'Alcazar et à 15h devant le centre de rétention du Canet, qui se trouve à quelques pas du métro Bougainville au début du boulevard Casanova dans le 14e. Plus d'infos et contacts sur www.educationsansfrontieres.org. Tuerno la libretto del fracca, mi fa rente clani buccia, per le stile per lo trova, lei sa non passa. Te di lupin trasfa del fum, a chi si crama la marine, non svolen cura du tristune, lei sa non passa.